Chapitre 87 L'esprit et le bras. Maintenant, passons de l'orangerie au pavillon de chasse. Au fond de la cour, où, par un portique fermé de colonnes ioniennes, on découvrait les chenils, s'élevait un bâtiment oblong qui semblait s'étendre comme un bras au-devant de cet autre bras, le pavillon de l'orangerie, demi-cercle enserrant la cour d'honneur. C'est dans ce pavillon, au rez-de-chaussée, qu'étaient renfermés Porthos et D'Artagnan, partageant les longues heures d'une captivité antipathique à ces deux tempéraments. D'Artagnan se promenait comme un tigre, l'œil fixe et rugissant parfois sourdement le long des barreaux d'une large fenêtre donnant sur la cour de service. Porthos ruminait en silence un excellent dîner dont on venait de desservir les restes. L'un semblait privé de raison et il méditait. L'autre semblait méditer profondément et il dormait. Seulement, son sommeil était un cauchemar, ce qui pouvait se deviner à la manière incohérente et entrecoupée dont il ronflait. « Voilà, dit D'Artagnan, le jour qui baisse. Il doit être 4 heures à peu près. Il y a tantôt 183 heures que nous sommes là-dedans. »« Hein ?» fit Porthos pour avoir l'air de répondre. « Entendez-vous, éternel dormeur, dit D'Artagnan, impatienté qu'un autre pût se livrer au sommeil le jour, quand il avait, lui, toutes les peines du monde à dormir la nuit. « Quoi ? Dit Porthos. « Ce que je dis. Que dites-vous ? Je dis, reprit D'Artagnan, que voilà tantôt 183 heures que nous sommes ici. « C'est votre faute, dit Porthos. « Comment c'est ma faute ? Oui, je vous ai offert de nous en aller. En descellant un barreau ou en enfonçant une porte ? Sans doute. Porthos, des gens comme nous, ne s'en vont pas purement et simplement. Ma foi, dit Porthos, moi je m'en irai avec cette pureté et cette simplicité que vous me semblez dédaigner par trop. D'Artagnan haussa les épaules. Et puis, dit-il, ce n'est pas le tout que de sortir de cette chambre. Cher ami, dit Porthos, vous me semblez aujourd'hui d'un peu meilleure humeur qu'hier. Expliquez-moi comment ce n'est pas le tout que de sortir de cette chambre. Ce n'est pas le tout parce que, n'ayant ni armes ni mot de passe, nous ne ferons pas 50 pas dans la cour sans heurter une sentinelle. Eh bien, dit Porthos, nous assommerons la sentinelle et nous aurons ses armes. Oui, mais avant d'être assommé tout à fait, cela a la vie dure, un Suisse, elle poussera un cri, ou tout au moins un gémissement, qui fera sortir le poste. Nous serons traqués et pris comme des renards, nous qui sommes des lions, et l'on nous jettera dans quelque cul de basse fosse, où nous n'aurons pas même la consolation de voir cet affreux ciel gris de Rueil, qui ne ressemble pas plus au ciel de Tarbes que la lune ne ressemble au soleil. Mordiou ! Si nous avions quelqu'un au dehors, quelqu'un qui pût nous donner des renseignements sur la topographie morale et physique de ce château, sur ce que César appelait les mœurs et les lieux, à ce qu'on m'a dit du moins. Et quand on pense que durant 20 ans, pendant lesquels je ne savais que faire, je n'ai pas eu l'idée d'occuper une de ces heures-là à venir étudier Rueil. Qu'est-ce que ça fait ? Dit Porthos. Allons-nous-en toujours. Mon cher, dit D'Artagnan, « Savez-vous pourquoi les maîtres pâtissiers ne travaillent jamais de leurs mains ?»« Non, dit Porthos, mais je serais flatté de le savoir. »« C'est que, devant leurs élèves, ils craindraient de faire quelques tartes trop rôties ou quelques crèmes tournées. »« Après ?»« Après, on se moquerait d'eux, et il ne faut jamais qu'on se moque des maîtres pâtissiers. »« Et pourquoi les maîtres pâtissiers à propos de nous ?» Parce que nous devons, en fait d'aventure, jamais n'avoir d'échec, ni prêter à rire de nous. En Angleterre, dernièrement, nous avons échoué, nous avons été battus, et c'est une tâche à notre réputation. Par qui donc avons-nous été battus ? Demanda Porthos. Par Mordaunt. Oui, mais nous avons noyé Monsieur Mordaunt. Je le sais bien, et cela nous réhabilitera un peu dans l'esprit de la postérité, si toutefois la postérité s'occupe de nous. Mais écoutez-moi, Porthos, quoique M. Mordaunt ne fût pas à mépriser, M. Mazarin me paraît bien autrement fort que M. Mordante, et nous ne le noierons pas aussi facilement. Observons-nous bien et jouons serré. Car, ajouta d'Artagnan avec un soupir, à nous deux, nous en valons huit autres peut-être, mais nous ne valons pas les quatre que vous savez.
C'est vrai, dit Porthos en correspondant par un soupir au soupir de d'Artagnan.
Eh bien, Porthos, faites comme moi, promenez-vous de long en large jusqu'à ce qu'une nouvelle de nos amis nous arrive ou qu'une bonne idée nous vienne. Mais ne dormez pas toujours comme vous le faites, il n'y a rien qui alourdisse l'esprit comme le sommeil. Quant à ceux qui nous attendent, c'est peut-être moins grave que nous ne le pensions d'abord. Je ne crois pas que M. de Mazarin songe à nous faire couper la tête, parce qu'on ne nous couperait pas la tête sans procès, que le procès ferait du bruit, que le bruit attirerait nos amis, et qu'alors il ne laisserait pas faire M. de Mazarin.
« Que vous raisonnez bien !» dit Porthos avec admiration.
« Mais oui, pas mal !» dit d'Artagnan. « Et puis, voyez-vous, si l'on ne nous fait pas notre procès, si l'on ne nous coupe pas la tête, il faut qu'on nous garde ici ou qu'on nous transporte ailleurs. »
« Oui, il le faut nécessairement, » dit Porthos.
« Eh bien, il est impossible que maître Aramis, ce fin limier, et qu'Athos, ce sage gentilhomme, ne découvrent pas notre retraite, alors, ma foi, il sera temps. »«
Oui, d'autant plus qu'on n'est pas absolument mal ici, à l'exception d'une chose, cependant. »«
De laquelle ?»«
Avez-vous remarqué, d'Artagnan, qu'on nous a donné du mouton braisé 3 jours de suite ?»
Non, mais s'il s'en présente une quatrième fois, je m'en plaindrai, soyez tranquille.
Et puis, ma maison me manque. Il y a bien longtemps que je n'ai visité mes châteaux.
Bah, oubliez-les momentanément. Nous les retrouverons, à moins que M. de Mazarin ne les ait fait raser.
Croyez-vous qu'il se soit permis cette tyrannie ? Demanda Porthos avec inquiétude.
Non, c'était bon pour l'autre cardinal, ces résolutions-là. Le nôtre est trop mesquin pour risquer de pareilles choses.
Vous me tranquillisez, d'Artagnan.
Eh bien alors, faites bon visage, comme je le fais. Plaisantons avec les gardiens, intéressons les soldats, puisque nous ne pouvons pas les corrompre. Cajolez-les plus que vous ne faites, Porthos, quand ils viendront sous nos barreaux. Jusqu'à présent, vous n'avez fait que leur montrer le poing, et plus votre poing est respectable, Porthos, moins il est attirant.
Ah, je donnerais beaucoup pour avoir 500 louis seulement.
Et moi aussi, dit Porthos qui ne voulait pas demeurer en reste de générosité avec d'Artagnan, je donnerais bien 100 pistoles.
Les deux prisonniers en étaient là de leur conversation quand Comminges entra, précédé d'un sergent et de 2 hommes qui portaient le souper dans une manne remplie de bassins et de plats.
Bon, dit Porthos, encore du mouton.
« Mon cher monsieur de Comminges, dit d'Artagnan, vous serez comme mon ami, monsieur du Vallon, et décidé à se porter aux plus dures extrémités si monsieur de Mazarin s'obstine à le nourrir de cette sorte de viande.
« Je déclare même, dit Porthos, que je ne mangerai de rien autre chose si l'on ne l'emporte pas.
« Emportez le mouton, dit Comminges. Je veux que monsieur du Vallon soupe agréablement, d'autant plus que j'ai à lui annoncer une nouvelle qui, j'en suis sûr, va lui donner de l'appétit.
« Monsieur de Mazarin serait-il trépassé ? » demanda Porthos.
« Non, j'ai même le regret de vous annoncer qu'il se porte à merveille. »«
Tant pis, dit Porthos.
« Et quelle est cette nouvelle ? » demanda d'Artagnan.
« C'est du fruit si rare qu'une nouvelle en prison, que vous excuserez, je l'espère, mon impatience, n'est-ce pas, monsieur de Comminges ? »
D'autant plus que vous nous avez laissé entendre que la nouvelle était bonne.
Seriez-vous aise de savoir que monsieur le comte de la Fère se porte bien ? Répondit Comminges.
Les petits yeux de d'Artagnan s'ouvrirent démesurément.
Si j'en serais aise, s'écria-t-il, j'en serais plus qu'aise, j'en serais heureux.
Eh bien, je suis chargé par lui-même de vous présenter tous ses compliments et de vous dire qu'il est en bonne santé.
D'Artagnan faillit bondir de joie. Un coup d'œil rapide traduisit à Porthos sa pensée. « Si Athos sait où nous sommes, disait ce regard, s'il nous fait parler, avant peu Athos agira. »
Porthos n'était pas très habile à comprendre les coups d'œil, mais cette fois, comme il avait, au nom d'Athos éprouvait la même impression que d'Artagnan, il comprit. « Mais, demanda timidement le Gascon, monsieur le comte de la Fère, dites-vous, vous a chargé de tous ces compliments pour monsieur du Vallon et moi ?»«
Oui, monsieur.
Vous l'avez donc vu ?»«
Sans doute. »
« Où cela, sans indiscrétion ?»«
Bien près d'ici, » répondit Comminges en souriant.
« Bien près d'ici ?» répéta d'Artagnan, dont les yeux étincelèrent. « Si près que si les fenêtres qui donnent dans l'orangerie n'étaient pas bouchées, vous pourriez le voir de la place où vous êtes. »
« Il rôde aux environs du château, » pensa d'Artagnan. Puis, tout haut.
« Vous l'avez rencontré à la chasse, » dit-il, « dans le parc, peut-être ?»
Non pas, plus près encore.
Tenez, derrière ce mur, dit Comminges en frappant contre ce mur.
Derrière ce mur? Qu'y a-t-il donc derrière ce mur?
On m'a amené ici de nuit, de sorte que le diable m'emporte si je sais où je suis.
Eh bien, dit Comminges, supposez une chose.
Je supposerai tout ce que vous voudrez.
Supposez qu'il y ait une fenêtre à ce mur.
Eh bien?
« Eh bien, de cette fenêtre, vous verriez Monsieur de la Fère à la sienne. »«
Monsieur de la Fère est donc logé au château ?»«
Oui. »«
À quel titre ?»«
Au même titre que vous. »«
Athos est prisonnier ?»«
Vous savez bien, dit en riant Comminges, qu'il n'y a pas de prisonnier à Rueil, puisqu'il n'y a pas de prison. »«
Ne jouons pas sur les mots, monsieur. Athos a été arrêté. »«
Hier, à Saint-Germain, en sortant de chez la reine. »
Les bras de d'Artagnan retombèrent inertes à son côté. On eût dit qu'il était foudroyé. La pâleur courut comme un nuage blanc sur son teint bruni, mais disparut presque aussitôt.
« Prisonnier ? » répéta-t-il.
« Prisonnier ! » répéta après lui Porthos abattu. Tout à coup, d'Artagnan releva la tête et on vit luire en ses yeux un éclair imperceptible pour Porthos lui-même. Puis, le même abattement qui l'avait précédé suivit cette fugitive lueur.
« Allons, allons, » dit Comminges, qui avait un sentiment réel d'affection pour d'Artagnan depuis le service signalé que celui-ci lui avait rendu le jour de l'arrestation de Broussel en le tirant des mains des Parisiens. « Allons, ne vous désolez pas, je n'ai pas prétendu vous apporter une triste nouvelle tant s'en faut. Par la guerre qui court, nous sommes tous des êtres incertains. « Riez donc du hasard qui rapproche votre ami de vous et de Monsieur du Vallon au lieu de vous désespérer. »
Mais cette invitation n'eut aucune influence sur d'Artagnan, qui conserva son air lugubre.
« Et quelle mine faisait-il ? » demanda Porthos, qui, voyant que d'Artagnan laissait tomber la conversation, en profita pour placer son mot.
« Mais fort bonne mine, dit Comminges. D'abord, comme vous, il avait paru assez désespéré. » Mais quand il a su que monsieur le cardinal devait lui faire une visite ce soir même...
« Ah ! » dit d'Artagnan, « monsieur le cardinal doit faire une visite au comte de la Fère ?»«
Oui, il en a fait prévenir, et monsieur le comte de la Fère, en apprenant cette nouvelle, m'a chargé de vous dire à vous qu'il profiterait de cette faveur que lui faisait le cardinal pour plaider votre cause et la sienne. »«
Ah ! ce cher comte !» dit d'Artagnan.
« Belle affaire, grogna Porthos, grande faveur. Pardieu, monsieur le comte de la Fère, dont la famille a été alliée au Montmorency et au Rohan, vaut bien monsieur de Mazarin. »«
N'importe, dit d'Artagnan avec son ton le plus câlin. En y réfléchissant, mon cher du Vallon, c'est beaucoup d'honneur pour monsieur le comte de la Fère. C'est surtout beaucoup d'espérance à concevoir. Une visite, et même, à mon avis, c'est un honneur si grand pour un prisonnier que je crois que monsieur de Comminges se trompe.
Comment je me trompe?
Ce sera non pas monsieur de Mazarin qui ira visiter le comte de la Fère, mais monsieur le comte de la Fère qui sera appelé par monsieur de Mazarin.
Non, 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 dit Comminges qui tenait à rétablir les faits dans toute leur exactitude. J'ai parfaitement entendu ce que m'a dit le cardinal. Ce sera lui qui ira visiter le comte de la Fère.
D'Artagnan essaya de surprendre un des regards de Porthos pour savoir si son compagnon comprenait l'importance de cette visite. Mais Porthos ne regardait pas même de son côté.
C'est donc l'habitude de monsieur le cardinal de se promener dans son orangerie ? Demanda d'Artagnan.
Chaque soir il s'y enferme, dit Comminges. Il paraît que c'est là qu'il médite sur les affaires de l'État.
Alors, dit d'Artagnan, je commence à croire que monsieur de la Fère recevra la visite de son éminence.
D'ailleurs, il se fera accompagner sans doute.
Oui, par deux soldats.
Et il causera ainsi d'affaires devant deux étrangers?
Les soldats sont des Suisses des petits cantons et ne parlent qu'allemand. D'ailleurs, selon toute probabilité, ils attendront à la porte.
D'Artagnan s'enfonçait les ongles dans les paumes des mains pour que son visage n'exprimât pas autre chose que ce qu'il voulait lui permettre d'exprimer.
Que monsieur de Mazarin prenne garde d'entrer ainsi seul chez monsieur le comte de la Fère, dit d'Artagnan, car le comte de la Fère doit être furieux.
Comminges se mit à rire.
Ah ça, mais en vérité, on dirait que vous êtes des anthropophages. Monsieur de la Fère est courtois, il n'a point d'armes d'ailleurs. Au premier cri de son éminence, les deux soldats qui l'accompagnent toujours accouraient.
Deux soldats, dit d'Artagnan, paraissant rappeler ses souvenirs.
Deux soldats, oui. C'est donc cela que j'entends appeler deux hommes chaque soir et que je les vois se promener pendant une demi-heure quelquefois sous ma fenêtre.
C'est cela. Ils attendent le cardinal, ou plutôt Bernouin, qui vient les appeler quand le cardinal sort.
Beaux hommes, ma foi, dit d'Artagnan.
C'est le régiment qui était à Lens et que monsieur le prince a donné au cardinal pour lui faire honneur.
Ah, monsieur, dit d'Artagnan, comme pour résumer en un mot toute cette longue conversation. Pourvu que son éminence s'adoucisse et accorde notre liberté à monsieur de la Fère.
Je le désire de tout mon cœur, dit Comminges.
Alors, s'il oubliait cette visite, vous ne verriez aucun inconvénient à la lui rappeler?
Aucun, au contraire.
Ah, voilà qui me tranquillise un peu.
Ce changement de conversation eût paru une manœuvre sublime à quiconque eût pu lire dans l'âme du Gascon.
Maintenant, continua-t-il, une dernière grâce, je vous prie, mon cher monsieur de Comminges.
Tout à votre service, monsieur.
Vous reverrez monsieur le comte de la Fère
demain matin.
Voulez-vous lui souhaiter le bonjour pour nous et lui dire qu'il sollicite pour moi-même la même faveur qu'il aura obtenue?
Vous désirez que monsieur le cardinal vienne ici?
Non, je me connais et ne suis point si exigeant. Que son éminence me fasse l'honneur de m'entendre, c'est tout ce que je désire.
Oh, murmura Porthos en secouant la tête, je n'aurais jamais cru cela de sa part.
Comme l'infortune vous abat un homme.
Cela sera fait, dit Comminges.
Assurez aussi le comte que je me porte à merveille et que vous m'avez vu triste mais résigné.
Vous me plaisez, monsieur, en disant cela.
Vous direz la même chose pour monsieur du Vallon.
Pour moi, non pas, s'écria Porthos. Moi, je ne suis pas résigné du tout.
Mais vous vous résignerez, mon ami.
Jamais.
Il se résignera, monsieur de Comminges. Je le connais mieux qu'il ne se connaît lui-même. Et je lui sais mille excellentes qualités qu'il ne se soupçonne même pas. Taisez-vous, cher du Vallon, et résignez-vous.
Adieu, messieurs, dit Comminges. Bonne nuit.
Nous y tâcherons.
Comminges salua et sortit. D'Artagnan le suivit des yeux dans la même posture, humble et avec le même visage résigné. Mais à peine la porte fut-elle refermée sur le capitaine des gardes, que, s'élançant vers Porthos, il le serra dans ses bras avec une expression de joie sur laquelle il n'y avait pas à se tromper.
« Oh oh ! Dit Porthos, qu'y a-t-il donc ? Est-ce que vous devenez fou, mon pauvre ami ?»«
Il y a, dit d'Artagnan, que nous sommes sauvés !»
« Je ne vois pas cela le moins du monde, dit Porthos. Je vois, au contraire, que nous sommes tous pris à l'exception d'Aramis et que nos chances de sortir sont diminuées depuis qu'un de plus est entré dans la souricière de monsieur de Mazarin. »«
Pas du tout, Porthos, mon ami. Cette souricière était suffisante pour deux. Elle devient trop faible pour trois. »«
Je ne comprends pas du tout, dit Porthos.
Inutile, dit d'Artagnan. « Mettons-nous à table et prenons des forces, nous en aurons besoin pour la nuit. »«
Que ferons-nous donc cette nuit ? » demanda Porthos de plus en plus intrigué.
«
Nous voyagerons probablement.
Mais...
Mettons-nous à table, cher ami. Les idées me viennent en mangeant. Après le souper, quand mes idées seront au grand complet, je vous les communiquerai. »
Quelque désir qu'eut Porthos d'être mis au courant du projet de D'Artagnan, comme il connaissait les façons de faire de ce dernier, il se mit à table sans insister davantage et mangea avec un appétit qui faisait honneur à la confiance que lui inspirait l'imaginative de D'Artagnan.